Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour. Nous allons ouvrir notre Bible et je vous propose un texte qui se situe dans le livre du prophète Zacharie. Alors, ça fait partie de la fin de l'Ancien Testament, dans ce que l'on a appelé, on a donné un nom, les petits prophètes. Alors, il y a ce sujet sur lequel nous allons réfléchir ce matin. Eh bien, c'est là un encouragement à ne pas se décourager lorsque les choses ne viennent pas selon nous, eh bien, rapidement, et que parfois il faut beaucoup de temps pour que certaines situations se mettent en route. Et dans ce texte que nous allons lire, dans Zacharie chapitre 4 et verset 10, eh bien, cela relate tout simplement cette persévérance que nous devons démontrer lorsque il y a là des temps d'attente, mais que Dieu a fait des promesses. Que quelque part et en toute chose, eh bien celui qui persévère finit par obtenir. Alors voilà, nous allons lire le passage, Zacharie chapitre 4 et verset 10, je vous ai dit, mais on peut commencer le verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. Voilà, ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront. C'est-à-dire qu'il y a parfois un long temps d'attente, beaucoup de travail, qui ne semble pas finalement porter des fruits. C'est un peu, et nous allons le redécouvrir dans notre méditation, où quelquefois il faut semer, et avant la récolte, il y a souvent des temps qui sont difficiles, parce que nous ne voyons rien venir, mais à un moment donné, Dieu a fait la promesse qu'il y aura toujours une récolte, une moisson. Alors voilà donc ce sujet, peut-être je peux le dire, car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront du résultat, se réjouiront de l'exaucement naturellement. J'aimerais commencer par une petite anecdote, c'est quelque chose de tout simple, et c'est l'histoire d'un homme. C'était dans les années 1860, un jeune homme qui n'avait aucune instruction. Certainement un garçon qui était issu d'une famille très pauvre, et il ne savait ni lire ni écrire. Il n'avait pas eu naturellement l'instruction, peut-être comme les autres, et il a fait une expérience spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, par un concours de circonstances, il a entendu l'Évangile et il a cru. Et ça a été pour lui quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'il s'est donné à Dieu. Et puis, personne ne pouvait présager ce qu'il serait devenu plus tard, avec peu de connaissances. Alors, en dépit justement de ce peu de connaissances qu'il avait, il est devenu, à un moment donné, au cours de sa vie, il est devenu un orateur de l'Évangile, un prédicateur de l'Évangile qui s'est fait connaître dans le monde entier. Voilà. Quand il est dit que Dieu choisit les choses faibles du monde, c'est le cas de, je vais vous donner le nom d'ici quelques instants, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, il a écrit toutes sortes de pensées, des livres, toutes sortes de choses. Et ces messages ont marqué son époque, naturellement. C'est une véritable révolution, c'était en Angleterre, une véritable révolution. Et ces messages ont été d'une ressource extraordinaire pour le monde protestant évangélique. Et aujourd'hui, il fait encore référence dans notre temps. Cet homme s'appelait Moody. Et il est devenu, dans nos milieux protestants, tout le monde connaît Moody naturellement. Un homme qui a prêché l'Évangile, qui a donné des enseignements extraordinaires, et je rappelle qu'il ne savait ni lire ni écrire au départ. Et Dieu s'est servi de lui comme un agent, on peut dire un agent, dont il a fait véritablement eh bien, une œuvre extraordinaire. Alors, tout ça pour introduire justement un principe. Le principe est le suivant, parce que nous avons besoin de le retenir, c'est un principe fondamental que nous trouvons dans toute la Bible, que nous trouvons dans la création, que nous trouvons dans eh bien, notre propre vie aussi, hein, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit notre vie dans la société. C'est quelque chose de très important que j'aimerais rappeler et qui peut être un encouragement pour ceux qui eh bien, ont besoin finalement eh bien, là, de trouver de nouvelles forces. Et ce principe constitue, je peux l'expliquer de cette manière, constitue la base de toute évolution et de toute croissance dans le monde des vivants. Je dis bien que ce n'est pas seulement uniquement sur le plan spirituel, mais c'est sur le plan naturel, d'une manière ou d'une autre, et nous aurons l'occasion d'en faire la démonstration à travers quelques histoires de la Bible d'ici quelques instants. Le principe, je le répète, est à la fois naturel et spirituel. Et nous croyons que celui qui est le créateur de toutes choses, qui est celui le créateur de la nature, mais le créateur du monde de l'esprit, eh bien, à quelque sorte, et Jésus l'a souvent évoqué, il l'a souvent pris en exemple, qu'il y a, en effet, ça marche d'une manière en parallèle, en quelque sorte. Donc, le monde naturel et spirituel. Je prends un exemple, un premier exemple de la nature. Nous savons tous que le chêne tutélaire, a forcément poussé à partir d'un gland. Et oui, hein, là, lorsque nous nous promenons en forêt, dans les bois, et qu'à une certaine saison, eh bien, sous un chêne, il y a des milliers de glands qui sont tombés naturellement. Et quand on sait que finalement, c'est ce chêne qui est le roi, on pourrait dire, de nos forêts, eh bien, est parti de rien du tout, en quelque sorte. C'était quelque chose d'insignifiant, quelque chose, finalement, qui n'avait pas beaucoup de valeur. Je prends l'exemple d'un homme, maintenant, qui s'appelle Joseph. Joseph, dans l'Ancien Testament, ne pas confondre avec Joseph, le père eh bien, de Jésus, mais ce Joseph dont il nous est parlé dans le livre de la Genèse, fut un jour vendu comme esclave. C'est-à-dire qu'il n'était rien, rien du tout. C'était un jeune homme qui, quelque part, a été trahi par ses frères, par sa famille, et puis il est parti, il l'a vendu eh bien, pour être esclave en Égypte. Mais nous savons qu'après des années, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à travers un concours de circonstances, Dieu s'est servi de Joseph. Et un jour, eh bien, il a accédé à la stature, oui, Seigneur, de premier ministre de Pharaon, d'un empire. C'est-à-dire de rien, Dieu l'a pris, cet homme, et lui a donné une position extraordinaire. Non seulement il a été en bénédiction pour tout l'empire égyptien, et dans ses principes même qu'il avait mis en pratique, ça a été pour le monde d'alors, hein, finalement. Et puis il a été le sauveur de son propre pays, les Israélites. Nous savons également, par exemple, nous avons le cas de David, tout jeune, finalement était rien d'autre qu'un petit berger. Il était le dernier de sa famille, il était méprisé probablement parce que bon, c'était le plus petit, mais il est devenu un roi puissant. Et lorsque nous savons, eh bien, et que nous connaissons l'histoire de David, qui est quand même eh bien là, nourri dans la Bible, on s'aperçoit que c'était un grand roi. D'ailleurs, il est vénéré certainement comme un des plus grands rois eh bien, de Juda, d'Israël. Et puis, je vais m'arrêter là dans les propositions de ces hommes, enfin, pour montrer que il y a là toute évolution et la croissance, elle part souvent de quelque chose qui ne paie pas de mine, qui semble être rien du tout. La Bible compte des centaines d'hommes comme David, comme Joseph, et nous avons besoin de remarquer que Dieu choisit souvent les petits. Voilà. Les petits, ou les choses qui sont petites, les choses qui sont insignifiantes, les choses qui sont imperceptibles, où on ne pourrait pas dire, eh bien voilà, ces choses où cet homme est promis à un grand avenir, parce que c'est justement, précisément, eh bien ce que Dieu fait, il fait exactement le contraire. Il y en a qui naissent dans des familles royales, princières. Il y en a qui ont ils ont été favorisés par la vie parce que bon, ils ont pu faire, eh bien là, des études, enfin toutes sortes de choses pour des carrières d'exception. Mais il faut savoir que Dieu fait le contraire. Il choisit ce qui est petit. Et peut-être pour tous ceux qui ont des complexes de dire mais je ne suis rien, je ne peux rien, eh bien nous avons l'essentiel et le principal quelque part. Si nous avons Dieu avec nous, parce que Joseph avait le Dieu d'Israël avec lui, David avait aussi son Dieu avec lui, enfin le Dieu de la Bible, eh bien nous savons que ça c'est un principe qu'il ne faut jamais oublier parce que ça nous évite de nous décourager, de nous sous-estimer en disant ben moi je suis rien du tout à côté de celui-ci ou de celle-là. Eh bien non, c'est pas du tout cela du tout. Et on pourrait penser que Dieu choisit tout simplement des gens qui sont sans grande valeur, qui doutent d'eux-mêmes et qui disent ben voilà, c'est pour les autres mais c'est pas pour moi, et qui se sentent et qui ont ce ressenti à l'intérieur d'eux-mêmes de peut-être mépris de leur personne ou complexés en raison de ce qu'ils savent peu de choses. Et de ce que, quelque part, ils n'ont pas suivi la filière de Monsieur Tout-le-Monde. Et on s'aperçoit que, eh bien, des Moudis, des Gédéons aussi, hein, qui pouvaient déclarer à un moment donné, moi je suis le plus petit de ma tribu, de ma famille, alors que Dieu l'appelait à devenir un héros. D'ailleurs, il l'appelle héros avant qu'il soit héros, hein, il le met en place. Ou encore des Timothées, où l'apôtre Paul dira à son ami Timothée, qui est un futur prédicateur, un futur pasteur, il lui dira, mais ranime le don qui est en toi, celui que tu as reçu, parce que finalement ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte, de peur, de sous-estimation de toi-même, de ce que l'on est nous-mêmes, mais c'est un esprit de force, d'hardiesse et d'amour. Voilà la grande différence, hein, il faut remettre les choses, car on sait bien qu'avec des petits riens, eh bien Dieu fait des miracles, voilà. Hein, lorsque nous prenons l'exemple des 5 pains et des 3 poissons pour nourrir 5000 personnes, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, avis aux amateurs s'ils veulent s'essayer à la chose, mais toujours est-il que Dieu fait des miracles avec ce qui n'est rien. Parce que pour lui, eh bien, il les voit grands, il les voit puissants, il les voit revêtus de toute son onction et de son autorité. Et Dieu va se servir de ces gens-là, ça c'est clair. D'ailleurs, nous avons aussi cette... chose qui nous, quelquefois, qui nous interpelle. Lorsqu'on se dit que lorsque Jésus a choisi ses disciples, il a choisi non pas à Jérusalem, dans le temple et dans les hautes sphères, finalement, de cette société ultra-religieuse, mais il a été choisir des pêcheurs sur le lac, il a été choisir là des gens tout simples, quoi qu'il en soit. Alors, les faibles commencements. C'est ça ce que nous pouvons dire, les faibles commencements de la graine à l'arbre majestueux. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est naturel. On pourrait peut-être également comparer, peut-être sur un plan médical et scientifique, de l'embryon à l'enfant, puis à l'homme nature. Et comment nous sommes arrivés, hein ? Je suppose que dans les premiers mois de la gestation, on est pratiquement rien du tout, on n'est rien, finalement. Et quand on voit que, bon... va venir dans ce monde un enfant, et puis il va devenir ensuite un jeune homme ou une jeune fille, et puis un homme, un adulte, avec des capacités extraordinaires. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais c'est quand même extraordinaire tout cela, ça doit nous amener à réfléchir. Eh bien, on pourrait peut-être comparer également de la chenille qui est là dans la terre, dans le terreau, et bien au papillon qui va s'envoler vers le ciel. C'est une réalisation aussi, de rien à véritablement quelque chose de glorieux. On peut le dire. Également, du bouton de la fleur qui va s'épanouir naturellement. Hein, quand on voit une rose, et au départ, le bouton est gros comme peut-être mon pouce, et puis à un moment donné, il va donner une fleur extraordinaire. Et ça, c'est le monde, eh bien là, végétal. Dans bien des choses comme cela, hein, on peut le... De l'hiver qui est dépouillé à l'automne, qui est écrasé de l'abondance des fruits, c'est pareil. Hein. L'automne, l'hiver, c'est quelque chose qui nous semble mort, où la nature a été frappée par toutes sortes de vicissitudes, les frimas, enfin toutes sortes de choses. Il semble que ça soit mort. Ensuite, il va y avoir un développement, c'est-à-dire le printemps, l'été également, qui va être la plus chaude et la plus belle saison. Et puis, il va y avoir l'automne, et là, il va y avoir la récolte, il va y avoir les fruits, il va y avoir l'abondance, naturellement. Alors que dire encore ? Tout est soumis à la croissance. C'est ça ce qui est important. Et quand Dieu appelle un homme, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, quelle que soit son éducation, peu importe même sa religion, il va y avoir un processus de croissance. Et je voudrais l'affirmer, c'est que, eh bien, lorsque nous-mêmes en tant que chrétiens, et peut-être ceux qui entendent l'évangile et qui sont, eh bien là, attirés par cette découverte de Dieu, eh bien, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ça commence tout petit, et puis à un moment donné, vous allez croître, vous allez vous développer jusqu'à trouver, eh bien, un épanouissement qui sera celui que Dieu a préparé pour vous. Alors donc, tout est soumis, tant sur le plan naturel, les plantes, les animaux, enfin, les hommes, et puis tout le reste de la création est soumis tout simplement à la croissance du petit insignifiant, nous pourrions dire, hein, je le mets entre guillemets, le petit insignifiant, ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'aperçoit pas, ce qu'il faut regarder de près parce qu'il est à peine visible, tout simplement au gigantesque accomplissement. Et je crois que le gigantesque accomplissement, eh bien, il se fait tout au long de notre vie. Et une chose qui est extraordinaire, et la Bible en parle, Paul l'enseigne d'une manière tout à fait particulière. C'est pas Paul, c'est Jésus qui l'enseigne dans l'évangile de Jean, si ma mémoire est fidèle. Et il parlera d'une petite graine qui doit mourir pour ensuite, eh bien, renaître, pour porter du fruit. Et une petite graine peut en donner 50, peut en donner 80, peut en donner 100. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Le grand accomplissement, le gigantesque accomplissement, et celui-ci se réalisera, autant nous avons été embryons invisibles, autant nous sommes devenus des enfants, des bébés, des enfants, ensuite des hommes faits, lorsque nous quitterons cette terre, l'accomplissement et la réalisation se trouvera de l'autre côté, dans la perfection. Parce que ça, c'est le but, c'est le cheminement. Il y a là une croissance, et la croissance est liée, partie liée. C'est indéfectible, c'est inséparable, finalement, eh bien, de ce que Dieu a préparé un plan. Alors, il est dit, ne méprisez pas les temps des petits commencements, les jours des petits commencements. Parce que ça commence par là, là naturellement. C'est important que nous puissions véritablement, eh bien, observer toutes ces choses. Maintenant, nous allons passer à d'autres exemples. Que c'est bien de peut-être apporter des éléments, non pas faire de la théologie, parce que, voilà, pur et simple, mais de pouvoir donner des exemples bibliques surtout. Que nous enseigne la Bible par rapport à ça? On a posé le principe il y a un instant. Alors, dans le livre du prophète Agé, il n'est pas très loin de Zacharie, me semble-t-il. Alors, le prophète Agé, dans le chapitre 2, alors nous allons retrouver cela tout de suite, que je prenne, voilà, que, il y a quelques pages dans la Bible, hein, évidemment. Et dans ce texte, chapitre 3, les versets 3 à 7, voilà, nous allons 3 à 7, que je prenne, permettez, voilà. Voilà ce que le prophète dit par rapport à Israël. Quel est parmi vous le survivant, parce qu'il y avait eu la déportation à Babylone, qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Il y avait déjà quelque chose qui existait, et c'était quelque chose de glorieux pour la tribu Juda. Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Parce que tout avait été détruit, il ne restait plus rien du tout. Après que les Assyriens ou les Babyloniens sont venus, tout avait été rasé. Ils avaient vu, ils avaient connu qu'il y avait là quelque chose de formidable. Tout avait été détruit. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, peuple entier de l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Et quand je lis « je suis avec vous », ça veut dire que l'œuvre de Dieu est invisible. Mais elle se fait dans la mesure où vraiment nous voulons nous mettre entre les mains de Dieu. Et il se passera toujours quelque chose. Il y aura toujours une croissance. Celui qui aime Dieu, celui qui est attentif à sa parole, celui qui veut faire le bien, celui qui véritablement se laisse conduire par le Saint-Esprit, il y aura nécessairement un développement dans sa vie. Il n'y a rien de plus terrible quand ça ne se développe pas. Quand c'est la stérilité, quand il y a de l'infécondité. Mais Dieu dit, mais vous avez vu, tout a été détruit, mais de ce qui était détruit, eh bien moi je suis capable de faire revivre les choses. Hein. Parce qu'il y a toujours une progression ou l'invitation à faire la comparaison entre les plans de Dieu qui sont quelquefois eh bien, difficilement discernables ou difficilement visibles et puis la gloire finalement, que nous avons perdu en tant qu'hommes, mais que Dieu va nous redonner, déjà sur cette terre et de l'autre côté. Dans l'évangile de Matthieu, il y a aussi un texte qui peut être intéressant à prendre en considération. Et là, je pense que c'est vraiment l'illustration, chapitre 4 et au verset 26. Jésus donne cette parabole. Il en est du royaume de Dieu que comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et ça, c'est véritablement une très belle illustration appropriée à la compréhension de tout le monde. Hein, quand il est dit, mais quand il parle du royaume de Dieu, le principe que Dieu a mis dans notre cœur par son appel, par la foi avec laquelle nous répondons à son appel, alors, comme un homme qui jette sa semence à la saison automnale, eh bien, les gens de la terre, eh bien là, après avoir remué la terre, après l'avoir fertilisée, vont mettre la semence, ils vont la répandre. Et il est dit ceci, le cultivateur, mais qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il vienne tous les jours dans son champ ou qu'il ne vienne pas, il a abandonné cette semence à la terre, à la nature, tout simplement. Nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Il n'a pas besoin de revenir tous les jours pour gratter s'il y a des petites gratter la graine, pour savoir la semence, pour voir s'il y a quelques petites radicules, quelques petits soupçons finalement de développement. Pas du tout. La terre produit d'elle-même. Eh bien c'est ça. À partir du moment où nous donnons notre vie au Seigneur, eh bien, il va y avoir, par l'action de l'Esprit de Dieu, par l'action de sa parole, par l'action de notre communion avec Dieu, que l'on appelle la prière, alors à ce moment-là, il va y avoir quelque chose. Alors, ça commence toujours faiblement. Il y a souvent, j'ai eu des relations avec nombre de gens qui découvrent l'Évangile, hein, et quelque part, eh bien, ils me disent « mais ça ne va pas assez vite hein. ». Hein, je sens que je ne fais pas assez de progrès. Alors bien sûr, s'ils se comparent avec des gens qui ont 20 ans, 30 ans de conversion, ça c'est sûr que de toute manière, il y a quand même une différence. Ça c'est clair. Mais, moi je les rassure, je leur ai dit, mais vous commencez, nous avons commencé de la même manière. Et puis à un moment donné, par notre attachement, notre fidélité, notre persévérance, eh bien, la terre produit d'elle-même. L'action de Dieu dans notre cœur va produire quelque chose. Et puis, ça commence à être eh bien, le blé en herbe, par exemple, hein, d'abord. Et puis ensuite, il y a un épi qui va sortir. Et le grain tout formé dans l'épi. Et puis, il va y avoir une production, parce que je l'ai dit et je le répète, c'est qu'un grain va en donner 50 dans peut-être les moindres récoltes. Mais il peut en donner 80 ou 100, c'est-à-dire que 1 va donner 100. Eh bien, c'est exactement le même principe de l'action de l'Esprit, de notre foi par rapport à Dieu, où là, il va y avoir une démultiplication. Alors, je le répète, ne méprisons pas les faibles commencements. C'est tout un processus, et je le démontrerai encore à travers une petite anecdote d'ici quelques instants. Dans Ésaïe, chapitre 55, pour poursuivre notre recherche dans la Bible, eh bien, il est dit cette parole, et ça vous connaissez, nous connaissons le texte, c'est la croissance dont le fruit est bénédiction. Voilà, c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas quelque chose de contraire. Alors dans Ésaïe, chapitre 55, et au verset 10, écoutez bien, parce que ça c'est aussi l'effet de la nature, mais on pourrait peut-être le comparer à la parole de Dieu qui arrose nos vies. Alors il est dit ceci, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, » ça ne remonte pas, hein, ça descend, on sait ce qu'il en est actuellement, on a les pieds dans l'eau, « sans avoir arrosé, non seulement ça arrose, mais ça féconde la terre et elle fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Parce que tout ça, il y a tout un ensemble de choses. Voilà, elle arrose cette pluie, elle féconde la terre et elle fait germer. Notre relation avec Dieu, notre communion avec lui, attend. C'est pas une démarche religieuse, mais c'est une démarche spirituelle. Alors à ce moment-là, eh bien, il va y avoir finalement un travail qui va se faire. Nourrissons-nous de la parole. Restons en communion avec Dieu dans la prière. Restons dans cette dimension où vraiment nous laissons Dieu eh bien, nous prendre en main pour nous transformer et nous changer. Alors à ce moment-là, cette semence, eh bien, elle va nous permettre d'avoir une bénédiction. Le pain pour celui qui mange, naturellement, et de la semence pour celui qui sème. Eh bien c'est ça, nous devenons aussi des semeurs à notre tour, Parce que ce que nous apportons aux autres, eh bien, c'est quelque chose qui sera bénédiction pour eux. Et il est dit ensuite, et c'est surtout sur ce verset-là que je voudrais m'arrêter, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ?» Et ce matin, ce que nous faisons, eh bien, moi, j'utilise uniquement ce qui nous est dit dans la parole pour le donner, pour que vous puissiez croire cette parole, non pas mettre votre confiance dans l'homme qui parle, mais en ce Dieu qui est présenté et qui va faire en sorte que dans des cœurs ouverts, dans des cœurs bien disposés, cette parole va devenir l'action du Saint-Esprit dans vos vies pour eh bien, entreprendre une œuvre. Eh bien, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors vous sortirez avec joie à ce moment-là. Vous recevrez quelque chose et ce sera une véritable bénédiction, tout simplement. Dans Philippiens, par exemple, encore brièvement, dans chapitre 1, alors ça c'est l'apôtre Paul, dans Philippiens, il est dit ceci, au verset chapitre 1er, verset 6, cette parole où il nous est montré qu'il y a là également, il dira, il parlera de ses amis chrétiens de Philippe, les Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. » C'est-à-dire que Dieu a commencé quelque chose, il est là semeur, mais un jour il deviendra moissonneur. Vous serez le champ de Dieu. Vous serez et vous porterez du fruit. Et écoutez et remarquez bien, il est dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé, celui avec un grand C majuscule, celui qui a commencé, eh bien la rendra parfaite. » Ça c'est extraordinaire. Ne méprisons pas les faibles commencements, tout simplement. L'histoire de Daniel, par exemple, au chapitre 3, je ne vais pas lire le texte, mais à un moment donné, le prophète Daniel doit se présenter devant le grand roi à Babylone, et puis il y a toute une vision à ce moment-là, c'est prophétique, et il nous est dit que devant cette vision, qui est tout simplement, eh bien là, l'image de l'orgueil, finalement, de l'homme, de la puissance humaine, cette arrogance, nous pourrions dire, c'était l'empire hein, de Babylone, il nous est dit qu'une petite pierre, de rien du tout, un petit gravier, un petit caillou, devant cette grande statue, pour ceux qui connaissent naturellement ce texte, hein, vous pouvez toujours relire le livre de Daniel parce qu'il est très très intéressant, eh bien nous nous apercevons qu'une toute petite pierre, de rien du tout, va taper les pieds de la statue, hein, qui est fragilisée parce qu'elle n'est pas homogène, elle est faite d'argile et de fer, voilà, c'est pas des choses qui s'alignent ensemble. Et à un moment donné, cette petite graine qui vient, on ne sait où, qui descend, va devenir une énorme pierre et qui va faire écrouler tout l'édifice de la statue, qui est l'image des empires, qui est l'image de l'empire de Babylone, où tout va s'écrouler. Donc, Dieu se sert de quelque chose, de rien du tout. Et vous savez, si on veut bien comparer, par exemple, si on veut bien comparer le monde, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, avec cette petite pierre que je vais nommer Jésus-Christ, et qui va venir dans un temps particulier de l'histoire des hommes, qui va sortir de rien du tout, qui va venir là d'une modeste famille, qui va eh bien, là être dans l'obscurité de Nazareth, et qui à un moment donné va se présenter à l'âge de 30 et quelques années, et qui lui va révolutionner le monde entier avec eh bien, là, sa venue, Messie pour les Juifs, Sauveur pour tous les hommes, et ça va être une véritable révolution au moment de l'Empire romain. Et c'est là où est né le christianisme, avec un personnage qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu, et qui va venir et qui va bouleverser finalement eh bien, le monde entier, et amener des millions et des millions d'hommes dans son royaume, en quelque sorte, par la foi, et en recevant ce salut par la grâce, parce que Dieu fait grâce dans tout ça. Donc de rien, eh bien, nous voyons que, et le christianisme, ça fait quand même 2000 ans, hein, que ça existe, et qu'il y a eu là des millions et des millions de gens. Je termine avec Esther. Ah ouais, Esther, jeune fille, qui n'avait pas de parents, qui était élevée par son oncle, et qui était une très belle jeune fille, et qui va être déportée, comme Daniel, et qui va être déportée à Suse, hein, dans cette capitale d'empire également, et qui va être choisie par l'empereur, le roi Assuérus, et qui là, eh bien, de rien du tout orpheline, se voit couronnée à un moment donné impératrice de la Perse. Impératrice, finalement, et c'est elle que Dieu va choisir, une jeune fille de rien du tout, qui va, comme Joseph, monter dans les sphères les plus hautes, malgré des oppositions, malgré toutes sortes de choses terribles qu'elle va connaître. Et de rien, cette petite jeune fille va devenir impératrice, et c'est elle qui va conjurer le génocide qui se prépare, et bien là, pour la destruction de tous ces déportés de Juda, d'Israël, dans cet empire. C'est à relire aussi tout cela. Alors, il ne faut jamais désespérer. Voilà. On aime tellement s'introspecter, de dire « mais j'en suis rendu ». On aime bien faire du check-up pour savoir notre cœur bat encore, si quelque part nous sommes encore bien, si nous aimons encore le Seigneur, etc., etc. On ne doit pas se comparer aux autres hommes, on doit se comparer à Jésus. C'est notre relation avec lui. C'est lui, finalement. Et je crois qu'il ne faut pas se désespérer. Il y a trop de gens dans les églises, trop de gens qui, quelquefois, découvrent l'Évangile et se disent « mais moi, je ne suis pas assez bien, c'est pas ceci, cela, et puis je ne pourrai jamais être comme celui-ci, comme cela, mais vous n'avez pas, et nous n'avons pas à nous comparer aux autres. » Le Seigneur nous a appelés, et il nous a appelés tels que nous sommes. Et de ce que nous sommes, eh bien, c'est lui qui va nous amener, eh bien là, à avancer à notre plein développement. Alors, ne pas se désespérer, ne pas regarder, eh bien là, et pleurer sur les faibles commencements. Dieu a déjà un plan, et il sait ce que nous sommes. Il sait ce que nous serons dans 10 ans, il sait ce que nous serons plus tard, il sait ce qu'un enfant est aujourd'hui, et ce qu'il sera, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans. Et si c'est un chrétien, eh bien c'est déjà arrêté d'avance. C'est déjà arrêté d'avance. Alors, je pense que tout ça, c'est à rappeler, naturellement. Il y a un but, et ce but, je voudrais quand même le rappeler tout simplement à travers une citation du livre des Hébreux, au chapitre 11, et au verset 27, c'est l'histoire de Moïse, brièvement, tout simplement. Il nous est dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, alors on se retrouve naturellement dans le livre de l'Exode, et sans être effrayé de la colère du roi, alors c'est ça ce que je voulais préciser, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Eh bien, c'est ça. C'est comme la petite graine que le paysan jette dans la terre, qu'il dorme ou qu'il soit éveillé jour et nuit, eh bien, la petite graine continue vers son chemin. Eh bien, c'est la même chose pour nous. La petite graine de la foi que Dieu a mis dans notre cœur, eh bien, elle va se développer. Et quand on connaît les circonstances dans lesquelles il nous est parlé de Moïse, ben, il avait certainement de quoi s'effrayer. Ça, c'est clair. C'est par la foi, il nous est dit, qu'il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et bien c'est ça notre foi. C'est pas de voir pour croire, mais c'est de croire et ensuite on verra. Tout simplement. Alors c'est important. Tout ça, ça a son sens. Savoir, connaître, discerner les raisons et les finalités de notre vie, de l'appel que Dieu nous a adressé. Parce que les principes sont immuables. Ce qui se passe dans la nature, spirituellement, ça marche en parallèle, mais dans l'invisible. Ça marche en parallèle. Et tout cela, ça régit le monde matériel, rappelons-le, puisque nous l'avons dit au départ, le monde économique, c'est sûr. Vous savez, les gens qui font de l'argent, la bourse et autre chose, quand ils mettent un investissement et tout ça, ils espèrent bien que ça va fructifier. C'est pas le moment en ce moment. Mais toujours est-il que c'est le même principe. Celui qui a investi quelque chose qui lui appartient, c'est sa propriété de ceci et cela. Mais il sait que de toute façon, à un moment donné, et il faut attendre. Alors au départ, il peut dire, mais ça fait déjà 3 ou 4 ans que j'ai investi tant de cette somme et ça ne donne rien. Eh ben, tous les gens qui connaissent la bourse diront, mais attendez, ça va venir. Et quelquefois, la tirelire, elle est quand même, quand elle est cassée, on a des surprises. Dans les deux sens d'ailleurs, ça peut aller. La vie morale, c'est pareil. Si tu fais le bien, tu récolteras le bien. C'est une petite graine également. La vie intellectuelle, elle se développe également. La vie spirituelle, on l'a dit. Et un enfant, il commence par le lait et il finit à la nourriture qui va lui permettre de devenir, d'avoir une stature. Tout ça, c'est vrai. Et ne pas aller plus vite que le rythme que Dieu a fixé à toute chose. Bien sûr, du début jusqu'à la fin. Nous, nous connaissons le début des choses, nous connaissons notre histoire, notre passé, nos origines, nous connaissons notre vécu d'aujourd'hui, mais nous ne connaissons pas ce que sera demain. Mais déjà demain est déjà inscrit. C'est rassurant. Là, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, où il y a tant de gens qui vivent dans un climat anxiogène, qui vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse, etc. Mais le chrétien, il n'a pas finalement à se préoccuper de tout cela, puisque les choses, et il y a des promesses pour le lui rappeler en permanence, s'il est attentif à ce que nous dit la parole. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Quelle impatience! Où les hommes trépignent, où les hommes s'énervent, où les hommes disent, et les chrétiens aussi, hein, il faut bien quand même le dire, ou dire, mais ça va pas assez vite. Seigneur, voilà, moi je veux que tu accélères un petit peu. Mais le Seigneur sait très bien, parce qu'il donnera autant qu'on a. Dieu a donné le nécessaire pour chaque jour. Et chaque chose a son temps. C'est forcé. La petite anecdote que j'ai citée tout à l'heure, ou celle que je vous ai dit que je citerai, pouvons-nous imaginer que chaque matin, on nous présente les trois repas ensemble de la journée? Voilà. Le petit déjeuner, le déjeuner et puis le dîner, naturellement. Pouvons-nous imaginer que si le lundi, tous les repas de la semaine arrivaient en même temps, du lundi jusqu'au dimanche soir, imaginez-vous, c'est quand même, voilà, tout simplement. Ou encore en une seule fois, tous ceux du mois et de l'année. On serait plutôt ennuyé. Eh bien, Dieu nous donne la nourriture au temps convenable. Il nous donne finalement ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, tout simplement. Dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, me semble-t-il qu'il y a une parole qui est tout à fait appropriée. Quand dans chapitre 6 et au verset 34, bon, vous le connaissez naturellement, hein, ce passage, hein, quand il est dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et puis toutes choses vous seront données par-dessus le marché, en son temps, parce que ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que nous avons besoin de peine supplémentaire? Nous nous donnons de la peine. Nous nous donnons beaucoup d'inquiétude. Mais le Seigneur l'a dit. Et il va nous donner autant qu'on a. Que le paysan qui a jeté sa semence dans la terre, qu'il veille ou qu'il dorme, qu'il soit éveillé, qu'il vienne la nuit, qu'il vienne le jour, etc., etc., ça ne changera rien. Les choses sont en route. Dieu a véritablement la maîtrise et il est souverain sur toutes ces choses. Alors en conclusion, il ne faut pas mépriser. Et le verbe mépriser, j'aimerais lui donner un sens. Enfin, le sens que, finalement, le langage et le dictionnaire nous donnent. Ça veut dire, ne sous-estimez pas. Vous jugez que c'est rien, vous jugez que finalement vous n'allez pas assez loin, vous n'allez pas assez vite, que vous êtes nul, que vous dépréciez, etc. Ne sous-estimez pas. Il y a un autre principe que celui qui est visuel, celui qui est palpable, celui qui est mesurable, celui que l'on peut analyser. Ne méprisez pas, n'estimez pas indigne d'attention ou d'intérêt. Ne méprisez pas, tout simplement. Ne daignez pas, ne négligez pas. Parce que même avec des miettes, et je termine sur cette pensée, même avec des miettes, parce que les miettes peuvent un jour devenir un véritable festin. Vous connaissez l'histoire de cette femme, la cananéenne, qui là, eh bien, alors qu'il y a une incrédulité tout autour d'elle, même les disciples sont douteux. Hein? Jésus est là, et puis cette femme va forcer un petit peu les portes pour arriver jusqu'à Jésus, elle va se frayer un chemin, voilà, ça va pas être simple parce qu'elle a quelque chose de très important, elle veut que Jésus eh bien, fasse quelque chose pour sa fille qui est près de mourir. Voilà, et toute maman pourrait finalement eh bien, être dans cette condition de vouloir obtenir la guérison et la délivrance. Et là, elle va venir par derrière et elle va ravir la guérison de sa fille. Ouais, elle va ravir, elle va prendre, elle va saisir. Faible commencement. Et pour montrer que les Juifs, eux, ils avaient tout. Jésus, leur Messie, était venu, leur avait donné des miracles, toutes sortes de choses. Et elle, parce qu'elle était cananéenne, c'était une étrangère, mais elle avait la foi. Et là, elle est venue, elle a pris les miettes. Et Jésus va être complètement impressionné, si l'on peut dire que Jésus peut être impressionné, mais il va lui dire, mais tu as fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que, alors que les autres sous-estiment, alors que les autres dédaignent, ils méprisent finalement eh bien, toutes les bénédictions que je suis venu donner à mon peuple de Juda et d'Israël, toi, l'étrangère, tu es venu, d'une manière très discrète, mais tu as forcé la porte, tu as eu l'audace de forcer la porte, tu as pris la guérison de ton enfant, alors tu es venu manger les miettes, comme les petits chiens, sous la table, qui sont là pour manger les miettes de leur maître. Et c'est ce que je dis, et je crois que c'est important. Eh bien, même si nous n'avons pas la faveur de tout, même si nous partons de rien, comme cette pauvre femme, eh bien, venons chercher les miettes de l'Évangile. Commençons avec des miettes, et des miettes, ça peut devenir un véritable festin. Et quand elle est partie de la présence de Jésus, sa fille était guérie, tout simplement. Ça, c'est l'acte de foi. Alors, ne méprisons pas les faibles commencements. Et que cette parole soit vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous, et nous allons simplement prier autour de ce que nous avons évoqué, et que ce soit véritablement une avancée considérable, et puis de tenir notre âme en patience, de dire « Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose pour moi ». Ça viendra dans un an, dans un mois peut-être, ou plus tard, ou plus tôt, je ne sais pas, mais toujours est-il, je te fais confiance, parce que ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est toi. Je t'ai permis de diriger mon existence, et je sais que ça sera toujours le meilleur. Alors, on prie quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour cette parole, parce que nous croyons, Seigneur, qu'elle est marquée véritablement du sceau de ton esprit, par le fait même que ce sont les paroles d'un homme qui sont importantes. Ce n'est pas, Seigneur, l'éloquence de quelqu'un qui parle. Ça ne rentre pas en ligne de compte. Une chose qui est certaine, c'est que même quelquefois, à travers des choses complètement, des paroles malhabiles, un langage malhabile, eh bien, tu es capable, en effet, d'aller au-delà, parce que tu nous as promis, Seigneur, cette chose extraordinaire, qu'en effet, Seigneur, ta parole ne retournera pas à toi sans avoir accompli tes desseins et accompli ta volonté. Oui, Seigneur, arrose-nous. Bénis-nous, Seigneur, de ces ondées de ton esprit. Accorde-nous, Seigneur, véritablement de te faire confiance et ainsi de ne pas nous décourager, de baisser les bras. Le principe même de la croissance et du développement, eh bien, tu l'as mis en nous. Et nous voulons simplement te dire, eh bien, Jésus, continue à faire ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que, comme tous ces exemples de ces personnages bibliques, de ce personnage contemporain, Seigneur, celui que nous avons cité au départ, eh bien, véritablement, tu ne veux pas, Seigneur, dans ton œuvre, que ce soit eh bien, l'éclat pour nos yeux, l'extraordinaire, quelque chose qui frappe nos regards, mais c'est souvent des petites choses, insignifiantes, que nous ne prendrions même pas en compte, et que là, à partir de cela, eh bien, tu es capable de bouleverser le monde. Mais le monde, c'est aussi nos cœurs, c'est aussi nos esprits, c'est aussi notre conscience, c'est aussi notre vie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alors, encourage-nous, bénis-nous, Seigneur, fortifie-nous, et qu'ainsi nous apprenions à ne pas mépriser les faibles, le jour des faibles commencements. Merci, Seigneur. Amen.